Je vous propose une lecture dans la deuxième épître de Pierre, dans laquelle le souci de l'apôtre Pierre était notamment celui de l'affermissement de chaque disciple de Jésus-Christ face aux fausses doctrines qui étaient en train de se développer déjà dans l'Église primitive. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 16 et jusqu'au verset 21. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçus que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous reprenons donc notre thème. Concernant la lecture cursive, nous allons vraiment survoler, même maintenant aussi, ce deuxième chapitre pour souligner quelques points. On va les découvrir pratiquement dans leur ensemble. Il y en aura encore quelques autres. Je ne vais pas donc entrer ici dans le détail. Nous avons évoqué tout d'abord la bonne diététique spirituel qui est un des grands buts de cette approche de la parole de Dieu parcourue par avion, ou comme les essuie-glaces, si vous voulez, d'une voiture, n'est-ce pas, qui passe sur le pare-brise continuellement. Deuxième raison, je n'entre pas dans le détail, mais il vaut la peine de le souligner, découvrir l'unité fantastique des Écritures, et surtout battre en brèche cette idée fausse qu'il y aurait une contradiction entre le Dieu de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Parce qu'il n'y a pas que des pratiquants d'autres mouvements religieux qui ont cette conception, ou des gens qui ont rejeté le christianisme. Il y a aussi des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, qui n'osent pas toujours le dire ouvertement, mais qui pensent dans leur cœur, pour le peu qu'ils connaissent de l'Ancien Testament, qu'il y a une contradiction entre le Dieu de l'Ancienne et le Dieu de la Nouvelle Alliance. Que ce Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu cruel, sanguinaire, qui se plaît à voir le sang couler, c'est le Dieu des guerres, n'est-ce pas? C'est le Dieu qui se met en colère. Il y a une emphase profonde sur la justice et la sainteté au détriment de l'amour. Ce sont des idées reçues. Il est quand même remarquable de constater qu'une des plus belles révélations de l'amour de Dieu a été donnée au peuple d'Israël au Sinaï. C'est vrai que le Sinaï
est annoncé et développé dans la Nouvelle Alliance, dans l'Épître aux Galates ou dans l'Épître aux Hébreux, comme étant le lieu par excellence où la loi de Dieu nous a été donnée, où vraiment la manifestation de la gloire de Dieu faisait peur, même à Moïse, qui avait, disons-le, une certaine intimité, entre guillemets, avec Dieu. Mais c'est du haut du Sinaï que Dieu a révélé au peuple d'Israël qu'il était un peuple, un Dieu rempli d'amour, lent à la colère, riche en bonté, qui ne conteste pas sans cesse, n'est-ce pas, prêt à pardonner, à faire grâce et compassion jusqu'en 1000 générations. C'est du haut du Sinaï que ça a été donné, cela. Et c'est une des déclarations centrales des Écritures sur le caractère de Dieu, puisqu'il se trouve qu'elle revient 10 fois dans les Écritures. Vous savez, quand Dieu répète exactement la même chose 10 fois, il faut le prendre au sérieux. Je ne veux pas dire que quand il ne dit qu'une fois, il ne faut pas le prendre au sérieux. Mais la répétition dans les Écritures est toujours synonyme de messages particulièrement essentiels à serrer sur son cœur. Déjà, quand Dieu dit quelque chose 3 fois, n'est-ce pas, saint, 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 et l'Éternel, il y a là toute une symbolique, il y a là toute une annonce. Quand il est dit dans Jérémie, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, quand c'est dit 3 fois comme ça, il faut chercher et savoir pourquoi le Saint-Esprit a tant insisté. Donc, nous pourrions dire beaucoup de choses concernant cette unité fantastique au sujet de la personne de Dieu. Vous savez que dans le livre des psaumes, ou dans le psautier, les 5 livres des psaumes, vous avez 100 de mentions de la bonté de Dieu. Simplement, la bonté de Dieu éclate dans l'Ancien Testament de manière extraordinaire. Vous avez quand même ce cantique des cantiques qui est non seulement l'hymne par excellence à la monogamie, n'est-ce pas ? Il y a là un chant d'amour qui exalte la monogamie dans le plan de Dieu, mais il y a aussi toute sorte de figure, n'est-ce pas, qui annonce l'amour de Dieu dans sa relation avec son peuple et la manière dont l'ennemi essaye de s'infiltrer pour saper cette relation d'amour entre le peuple et son Dieu. Il faudrait dire beaucoup de choses. Nous avons parlé ce matin de Jésus-Christ, le fil rouge concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ qui parcourt l'ensemble des Écritures. C'est Ruben Sayas qui a écrit ceci: le Christ est inséparable des Écritures et nous ne pourrons connaître le Christ tout entier qu'à condition de lire et d'étudier, de méditer soigneusement la Bible tout entière. Vous voyez, il revient un peu la même idée que nous avions pris du langage de Tozer ce matin. Lire la Bible tout entière pour connaître le Christ tout entier, et puis le transmettre ensuite au monde tout entier. Ça a été un des grands slogans, je dirais, de l'époque de Ruben Sayas. Nous aurions pu entrer dans le détail de ce qu'on appelle la découverte de révélations progressives dans les Écritures. Le tort, parfois, que nous avons, c'est de vouloir construire la doctrine sur tel ou tel aspect, partie des Écritures, qui ne tient pas compte du fait qu'il existe dans les Écritures une révélation progressive. Dieu a apporté au peuple d'Israël une révélation petit à petit, pas après pas, parce que Dieu est un bon pédagogue. De la même manière que lorsqu'on se convertit à Jésus-Christ, il y a aussi dans nos vies des révélations progressives. Si Dieu nous révélait notre nature corrompue dans sa totalité d'un coup, vous savez que nous mourrions tous immédiatement d'un infarctus. Mais Dieu sait, avec un doigté fantastique, révéler en fonction de notre maturité, de notre progression spirituelle. Et ça, c'est tout l'apprentissage que nous avons à faire dans nos relations les uns avec les autres, dans le domaine de la relation d'aide, de l'exhortation, du conseil, de la répréhension. Parfois, on arrive là en gros sabot, n'est-ce pas, et puis on révèle tout sur ce que l'on voit chez les autres. Et puis on s'étonne après de les récupérer à la petite cuillère, n'est-ce pas? Non, il faut y aller progressivement. il faut choisir entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Ça, c'est une des dimensions de l'amour de Dieu. Philippiens 1:8, n'est-ce pas? Afin que vous sachiez avoir un amour qui discerne ce qui est important. Et que vous ne soyez donc pas toujours en train de traquer pour les moindres détails. Ça, c'est un grand enseignement des Écritures. Tout l'aspect du progressif dans la révélation. Révélation de la personne de Dieu lui-même. Dans l'histoire d'Abraham, pour ne prendre qu'un échantillon, vous avez une révélation progressive de Dieu, sous des noms nouveaux. Au fur et à mesure qu'Abraham avance, Dieu se présente à lui, se révèle à lui sous des noms nouveaux. El Elyon, le maître très haut, le très haut maître du ciel et de la terre. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, parfaitement suffisant. Yahvé Yiré, l'éternel pourvoira. À chaque nouvelle situation dans laquelle se trouve notre ami Abraham, Dieu lui accorde une révélation qui va répondre à sa situation et à ses besoins. Et puis il y a les formes de révélation sur la personne de Dieu et le plan de Dieu à Israël. Au début, ce sont les songes, les visions, les théophanies ou les christophanies, et toutes sortes d'autres formes de révélation qui sont des révélations, je dirais, à un peuple tout à fait mineur qui a besoin de cela, qui a aussi une écriture, un message révélé et copié très très peu important, très minime. Donc on comprend que Dieu se révèle de cette manière. Mais plus on avance dans l'Ancien Testament vers les tout derniers prophètes et vers Jésus-Christ, plus le message, la révélation de Dieu s'affine et puis utilise, disons, des voies qu'on pourrait qualifier de plus spirituelles, de moins matérialisées. Et peu à peu, c'est le message des prophètes qui va succéder à ces visions, à ces songes, etc., n'est-ce pas? Et je comprends qu'aujourd'hui, notamment dans nos pays d'Europe occidentale, où nous avons la Bible à portée de main, nous ayons beaucoup moins besoin de visions, de songes, de révélations, parce que nous avons les Écritures. Là où dans tant d'autres pays, et je visite certains d'entre eux, je me rends compte dans ces pays que Dieu est bon quand la parole de Dieu n'est pas à la portée de tout un chacun. Dieu est bon dans sa grâce toute particulière de donner ce moyen de le connaître par des moyens tout à fait particuliers. Mais Dieu ne veut pas de paresseux. Je ne vois pas pourquoi Dieu donnerait des révélations spéciales à un peuple qui a la révélation par excellence de sa parole. Alors parfois nous voulons court-circuiter l'effort d'aller dans la parole de Dieu et nous préférons cette voie si facile qui consiste à recevoir des révélations directement d'en haut. Alors si nous tenons vraiment à des révélations d'en haut et que nous ne voulons plus écouter les Écritures, il faut faire attention, parce qu'il y a des révélations qui viennent d'ailleurs, n'est-ce pas? Bon, je ne peux pas ici aussi entrer dans tous les détails, mais simplement signaler la chose. Le dévoilement progressif du plan du salut, les révélations progressives sur l'au-delà, construire une doctrine, est-ce possible d'ailleurs, sur l'au-delà, à partir du livre de Job, n'est-ce pas, c'est une folie, parce que c'était une époque où peu d'éléments étaient encore, peu de lumière était donnée aux hommes de Dieu de l'époque. Non pas qu'ils aient su des choses fausses, ce n'est pas cela, mais il y avait peu de lumière. Et puis plus on va vers Jésus-Christ, plus on a ici et là quelques jets de lumière, quelques précisions. Puis alors le Seigneur Jésus, notamment dans Luc au chapitre 16, avec ce récit du pauvre Lazare et du riche, n'est-ce pas, va jeter beaucoup plus de lumière encore. Mais il faut tenir compte de cette révélation, de cette progression dans la révélation. Il faudrait parler en détail de la découverte des liens fantastiques entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est un livre d'images. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que des images et que l'histoire du poisson de Jonas, n'est-ce pas, n'est qu'une image. C'est une réalité. mais qui nous sert d'image, qui nous sert d'illustration. Et là, nous sommes tellement marqués par l'abstrait, n'est-ce pas, notre philosophie, tout un passé fait d'une culture de l'abstrait, que nous passons à côté de richesses fantastiques de l'Ancien Testament. J'ai compris dans ma vie personnelle certaines des doctrines assez difficiles du Nouveau Testament par certains livres de l'Ancien Testament. Le livre de Ruth, qui est un livre qui m'a toujours beaucoup passionné, est un livre qui m'a permis de saisir certains messages de l'Épître aux Romains, par exemple, de manière remarquable, parce qu'il y a dans le livre de Ruth les grandes vérités doctrinales qui sont là en geste. Nous avons une famille qui vit dans un contexte de crise, et Dieu nous parle au travers de cette famille et nous peint des doctrines qui pourraient nous paraître tellement abstraites, mais ces doctrines s'incarnent dans des personnages. Et nous avons besoin de cela. C'est Lucien Barnier, vous avez entendu peut-être, surtout pour certains d'entre nous, parler ce personnage qui a écrit un livre quelques 2 années avant de mourir. Ce livre s'intitule « J'ai quitté le parti pour Dieu ». Lucien Barnier a été un correspondant de presse, speaker sur les grandes chaînes de radio, Luxembourg, France Inter, etc., parce qu'il était vraiment en France un vulgarisateur de la science dans toutes sortes de domaines, très très agréable à suivre, à entendre et à lire. Ce que l'on n'a pas su généralement, c'est qu'il était en même temps membre du Parti communiste français pendant 25 ans, et qu'il est allé jusqu'aux hautes sphères de ce parti. Et puis finalement, il a été très insatisfait de son matérialisme athée. Il a changé de doctrine scientifique dans certains domaines, comme on change de chemise, et puis son cœur était vide. Si bien que peu à peu, il s'est posé des questions sur l'existence de Dieu. Et il a découvert la Bible. Et il s'est mis à lire la Bible. Et sa vie a été bouleversée. Nous ne savons pas s'il s'est vraiment donné à Jésus-Christ, mais il a écrit un livre 2 années avant de mourir d'un cancer, qui est une sorte de testament spirituel dans lequel il chante un hymne à la parole de Dieu. C'est un livre fantastique qui semble avoir été un peu escamoté dans les librairies, et c'est profondément regrettable, qui s'intitule donc « J'ai quitté le parti pour Dieu ». Je ne sais pas si vous réussirez à le trouver. Il me semble que ce sont les éditions Calvin de Lévy, mais je n'en suis pas sûr. Mais si vous réussissez à tomber sur ce livre, sans vous faire mal, achetez-le et lisez-le. Il y a des passages bouleversants. Et il écrit notamment ceci. Il n'existe aucun livre de nos jours qui mérite autant de lecteurs dans le monde entier que la Bible. Hein, pensez à son arrière-plan, hein. Tout simplement parce que la Bible parle aux hommes de la gigantesque geste des manifestations extraordinaires de Dieu durant des millénaires et des millénaires. Parce que la Bible entretient les hommes de ce que fut réellement le prodigieux roman de l'enfantement de l'âme humaine, parce que la Bible est restée un livre d'images pour enfants. Et je crois que là, dans son analyse, il a raison, notamment en ce qui concerne l'Ancien Testament. Nous avons besoin de l'Ancien Testament. Savez-vous que l'Apocalypse est imprégné de l'Ancien Testament? C'est vrai que par bien des côtés, l'Apocalypse reste un livre assez scellé, où nous devons être prudents pour ne pas nous enfermer dans des systèmes trop rigides et dogmatiques d'interprétation. Il faut être prudent. Mais il y a quantité de choses dans l'Apocalypse qui sont belles et merveilleusement claires. Ce sont d'ailleurs celles qu'habituellement on escamote quand on parle de l'Apocalypse. Et notamment, si nous voulons avoir un certain nombre de clés pour la compréhension de l'Apocalypse, il faut connaître l'Ancien Testament. Sur 405 versets dans l'Apocalypse, on compte au moins 285 citations textuelles de l'Ancien Testament. 285 sur 405. Vous voyez la proportion? Ça veut tout dire. Si vous n'êtes pas familier de l'Ancien Testament, vous allez passer à côté de merveilleuses vérités. sur 1800 versets qui rapportent les discours de Jésus, dans les quatre évangiles, 180, c'est-à-dire exactement le dixième, sont des citations ou allusions directes à l'Ancien Testament. Simplement, dans l'évangile selon Matthieu, qui fait pont, n'est-ce pas, qui fait joint avec l'Ancien Testament, qui est tourné particulièrement vers le peuple d'Israël, pour lui montrer la crédibilité de l'Ancienne Alliance, vous avez une centaine de citations et allusions à l'Ancien Testament. Dans les quatre évangiles, 769 citations et allusions verbales à l'Ancien Testament en comptant les textes parallèles. Et encore là, on se bat parce qu'on peut voir des allusions là où d'autres n'en voient pas. Ne soyons pas trop dogmatiques, mais c'est pour vous montrer tout de même l'importance de l'Ancien Testament. Plus de 300 prédictions concernant le Messie souffrant dans l'Ancien Testament, dont des chapitres entiers, et plus de 500 prédictions concernant la seconde venue de Christ en gloire. Puis alors nous l'avons dit ce matin et hier, l'Épître aux Hébreux. Comment pénétrer le message de l'Épître aux Hébreux sans aller chercher racine dans le livre du Lévitique? Il y a une imprégnation fantastique du Lévitique. Le Deutéronome, qui est cité 99 fois dans le Nouveau Testament. C'est un livre clé, le Deutéronome. Un livre très important que le Seigneur Jésus lui-même a cité à diverses reprises et qui devrait vraiment nous intéresser. Vous savez que c'est un livre très pratique, très concret. C'est un livre qui tourne autour de l'axe de l'obéissance et de la désobéissance. Vous avez près d'une centaine de passages dans le Deutéronome où il est question verbalement, n'est-ce pas, des mots, donc obéir, désobéir, désobéissance, etc. Quelqu'un a donc dit ceci: l'Ancien Testament a préparé ce que le Nouveau Testament a accompli, c'était la graine et la plante dont le Nouveau Testament fut le fruit glorieux. Il faudrait parler des relations entre les livres de l'Ancien Testament, de la complémentarité de nos livres. Alors là, nous avons un problème à cause de l'ordre de nos Bibles. L'ordre de nos Bibles est celui de la Vulgate latine, cette traduction de Jérôme, qui était un texte remarquable à l'époque, mais contenant une quantité de problèmes, d'autant plus que Jérôme s'est inspiré du texte de la Septante, c'est-à-dire de l'Ancien Testament hébreu traduit en grec, n'est-ce pas? Et cet ordre de la Vulgate n'est pas chronologique. C'est un catalogue qui a été dressé d'après l'analogie des genres littéraires et des matières traitées dans ces livres. Alors vous avez un groupement, n'est-ce pas? Vous avez donc les livres historiques, le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques, puis les livres prophétiques. Alors que l'Ancien Testament hébreu a été construit d'une manière tout à fait différente. Alors il faut essayer de remettre tout ça en ordre. Et nous aurions pu, si nous avions passé vraiment un séminaire plus long ensemble, essayer de nous interroger sur les livres qu'il faut marier entre eux. Il fallait qu'il faut apprendre à lire aussi l'Ancien Testament de cette manière. Parce que certains livres historiques éclairent certains livres prophétiques. Et vous savez que les livres prophétiques sont à lire parce qu'ils correspondent aux besoins de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui comme jamais auparavant. Alors nous avons évoqué, en parlant de Daniel, toute une série de livres qui tournent autour du livre de Daniel. Le livre de Jérémie, le livre d'Ézéchiel. Vous avez le prophète Habacuc, le prophète Sophonie. Vous voyez, déjà là, vous avez tout un tir groupé, en quelque sorte, d'écrits qui se complètent avec l'arrière-plan historique à partir de certains livres, et ça donne un relief absolument saisissant au message prophétique. Vous avez donc Esdras, Esther, Néhémie, Esther étant assez particulier, une petite poche spéciale dans le contexte général d'Esdras, Néhémie. Et puis, les livres qui correspondent, vous avez Agée, Zacharie, Malachie, qui appartiennent à la même époque. Alors pouvoir lire ces livres ensemble est quelque chose d'absolument passionnant. Il faudrait parler, on va d'ailleurs changer de feuille pour ce faire. Je vais assez vite ici, mais simplement pour que nous puissions prolonger cela chez nous. Vous avez ensuite la découverte à faire de la spécificité, c'est-à-dire du message particulier de chaque livre de la Bible. Vous voyez, Dieu nous a donné la Bible comme une sorte de garde-manger, n'est-ce pas ? Avec des tiroirs. Et il y a à chaque livre une vocation particulière, en dehors d'autres éléments qui se retrouvent un petit peu partout. Et il importe que nous découvrions le message particulier des livres. Parce que ceci va nous aider lorsque nous avons à aider d'autres personnes ou lorsque nous sommes dans certaines situations difficiles. Lorsque quelqu'un vient vous voir avec tel ou tel problème, plutôt que lui donner un tas de conseils, peut-être pouvez-vous lui dire simplement, eh bien, la meilleure prescription médicale que je puisse te donner, c'est bien, lis tel livre. Si tu lis ce livre, tu vas trouver une quantité de réponses. Et l'avantage, ce n'est pas moi qui vais te donner le détail de ces réponses. Mais tu vas trouver dans ce livre le message de Dieu pour toi dans ta situation personnelle. Alors nous pourrions prendre chaque livre et essayer d'en extraire le message principal. C'est un travail à faire, de faire une liste des livres et puis de se poser la question, mais quel est le message plus particulier que Dieu a voulu nous adresser par ce livre? Le livre de la Genèse, quel est son message? Le livre de l'Exode, quel est son message? Alors, je ne vais pas vous donner les réponses ici, mais c'est un bon exercice à faire pour avoir une pensée juste et équilibrée dans ce domaine. Les épîtres de Paul. J'ai sous les yeux toute la liste du message principal qui ressort de la pensée, de l'axe central des différentes épîtres du Nouveau Testament. Et puis, encore un aspect très important, c'est donc le point H, la découverte de la pédagogie divine pour former l'âme. Vous savez que quand quelqu'un se convertit à Jésus-Christ, notamment les jeunes, on donne un certain nombre de conseils. Et parmi ces conseils, on encourage vivement les jeunes croyants à lire de bonnes biographies. Alors, il y a deux sortes de biographies. Il y a les biographies bibliques, et puis il y a les biographies de l'histoire de l'Église au fil des siècles. Et cela nous permet de nous identifier, de voir comment d'autres personnes ont réagi dans des situations parfois très semblables aux nôtres. Et notamment, l'Ancien Testament nous a été donné pour que nous puissions nous identifier avec des personnages dont la vie nous est racontée. C'est très très important. La Bible est un manuel sans équivalent de pédagogie appliquée. Découverte de la mentalité de Dieu, de ses rapports avec l'homme, de sa pensée. Tout ceci peut beaucoup nous aider dans notre vie personnelle. Et puis enfin, un point qui n'est pas des moindres, je ne l'ai pas indiqué ici, c'est le développement d'un christianisme équilibré. Le développement d'un christianisme équilibré. Oh, nous l'avons un peu souligné en introduction, l'importance d'avoir une connaissance aussi complète. Nous n'aurons jamais une connaissance complète, mais aussi équilibré que possible des grands sujets bibliques pour ne pas tomber dans les errements des sectes, de certains extrémismes évangéliques qui bâtissent des doctrines sur une Bible tronquée et qui font dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. La Bible s'interprète par la vie. La Bible s'interprète par la vie. Un passage obscur se comprend à la lumière de passages sur le même sujet qui sont plus clairs. Ça, c'est une des règles d'interprétation des Écritures qui est absolument fondamentale. Ça, il faut le dire quand quelqu'un se convertit. plus tu liras la Bible, plus des textes difficiles vont s'éclairer à cause de textes qui, à côté, sont plus clairs. Et c'est pour cela qu'il faut parcourir le territoire entier des Écritures. Parce que peu à peu, on établit des liens, puis subitement un texte très obscur devient lumineux à la lumière d'un texte beaucoup plus clair. J'aimerais prendre ici deux exemples. Exode chapitre 33, Exode chapitre 33, verset 11, Exode 33, verset 11, une affirmation d'ailleurs assez impressionnante, Exode 33, 11, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. » Et un petit peu plus loin, au verset 20, l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Voilà, dans le même chapitre, un de ces pièges qui fait le bonheur des incrédules notoires, qui méprisent la Bible, livre apparemment bourré de contradictions. C'est vrai, à quelques versets près, il semble que nous ayons deux affirmations contraires. Et ça peut troubler, effectivement, un jeune croyant. Versets 6 à 8, c'est Dieu qui parle et qui dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation, le terme hébreu laisse entendre une forme, une silhouette, voyez, de l'Éternel. La Bible, c'est clair, par la Bible. Voilà ici la solution à l'apparente contradiction due à une lecture superficielle d'Exode au chapitre 33. Prenons un second texte, 2 Samuel 24, verset 1er. 2 Samuel chapitre 24, verset 1er, un texte qui a souvent troublé bien des croyants. 2 Samuel 24, 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Nous avons un texte parallèle dans 1 Chronique 21, verset 1, 1 Chronique 21, verset 1er, alors nous avons en tête ce premier texte, n'est-ce pas? Il est dit que c'est la colère de l'Éternel qui s'enflamme contre Israël, et c'est l'Éternel qui excite David contre eux en disant, etc., va et fais le dénombrement. Chapitre 21, verset 1er de 1 Chronique, Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Voilà encore un de ces textes qui est troublant. Et on pourrait prendre quantité d'autres textes qui vont dans ce sens. Alors qui a raison? Est-ce donc 2 Samuel? Est-ce un chronique? Est-ce qu'il y a eu un dérapage de la main d'un scribe? On le saurait d'ailleurs parce qu'il y a en général des annotations sur les manuscrits. Voilà, c'est très bien. Vous voyez, vous avez compris. Mais au départ, c'est quelque chose de troublant, n'est-ce pas? Dieu est parfaitement souverain. Il domine sur la puissance des ténèbres. Vous avez simplement dans le premier texte aucun intermédiaire, c'est celui qui est l'origine première, qui dirige toute chose. Dans le second texte, vous avez l'intermédiaire, c'est-à-dire la puissance des ténèbres qui, sous le contrôle de Dieu, agit et excite, n'est-ce pas? Alors, il faut donc, c'est important, une fois de plus, lire l'ensemble des Écritures, parce que ce que nous venons de faire en un instant est vérifiable dans quantité d'autres textes de la parole de Dieu. Notez ceci, je vous encourage à le mettre aussi sur votre page de garde de la Bible. Si nous sortons un texte de son contexte, nous obtenons un prétexte. D'accord ? Si nous sortons un texte de son contexte, nous obtenons un prétexte. Et c'est vrai que souvent, c'est parce que nous voulons faire Dieu menteur pour justifier notre péché, nos interprétations, parce qu'elles nous arrangent, n'est-ce pas, que nous sortons des textes de leur contexte. Si nous sortons un texte de son contexte, nous obtenons un prétexte. Et c'est là que se situe ce texte de deuxième épître de Pierre au chapitre 1er, et notamment le verset 20. 2 Pierre 1, 20, vous avez une affirmation claire, péremptoire, indiscutable. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est une forte affirmation, qui est d'ailleurs, dans le texte original, assez amusante, parce qu'il y a un petit mot qui rend le terme « particulière », qui est le mot grec qui a donné en français le mot « idiot ». Le mot « idiot » figure assez souvent dans le Nouveau Testament, mais il n'avait pas tout à fait le sens qu'il a acquis avec le temps. C'était, par exemple, l'idiot, c'était la simple personne, le quidam, celui qui ne faisait pas partie d'un cercle d'initiés. Dans 1 Corinthiens 14, il est question de la personne tout à fait étrangère à une vie d'église, qui entre dans la vie d'église et qui entend un message prophétique, un exposé de la parole de Dieu, d'une sentinelle de Dieu qui, de la part de Dieu, dévoile le fond du cœur de cet idiot. N'est-ce pas ? Une personne qui est étrangère à la vie d'une église. Et ici, le terme est utilisé pour signifier quelque chose qui est à l'écart, qui appartient à soi, qui est propre à une personne. Vous avez deux petits mots qui ont été remarquablement traduits dans la Tobe. Vous lirez dans la Tobe, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation privée. Et le terme privé va très bien et sous-entend qu'il ne faut pas interpréter une prophétie en l'isolant des autres, mais toujours à la lumière de toute la parole de Dieu. D'où la nécessité, une fois de plus, de couvrir l'ensemble des Écritures. Et le verset 21 apporte une précision très intéressante. Il nous est dit que ce n'est pas par une volonté d'homme, de manière privée, justement, qu'une prophétie a jamais été apportée. Ce n'est pas une petite cuisine personnelle, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et le terme « poussé », vous le retrouverez dans le texte grec d'Acte 27, où il est question de ce naufrage du bateau qui emmenait l'apôtre Paul vers Rome. Lorsqu'il est dit dans les versets 15 et 17 que le bateau et ses passagers se sont laissés emporter, aller à la dérive, le bateau a été entraîné, dirigé au gré du vent, c'est exactement le même terme qui est utilisé. Et bien sûr, l'image est belle. Les auteurs humains de la Bible ont été comme entraînés, dirigés, portés au gré de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a eu un contrôle absolu du Saint-Esprit sur la production des écrivains sacrés. Avec ce miracle extraordinaire, c'est qu'en même temps, il y a eu un respect profond de la part du Saint-Esprit sur la personnalité de chacun des rédacteurs. Il ne s'agit pas d'une dictée mécanique. Hein. Dieu s'est servi de ces canaux en respectant leur personnalité. Mais vous savez que quand on lit souvent la Bible, on peut faire un petit concours qui consiste ensuite à sortir des extraits 1, 2, 3, 4 versets, et à faire deviner qui est le rédacteur. Simplement à partir du style, à partir de la personnalité qui est respirée par le texte, parce que chacun des rédacteurs a laissé transpirer sa personnalité. Vous savez qu'on a dit à tort qu'il y avait pour le prophète Ésaïe au moins 3 Ésaïe. certains sont allés jusqu'à 6 qui se sont succédés pour nous bricoler le fameux livre du prophète Ésaïe. Alors, comme on dit chez nous, manque de peau, il y a eu la fameuse découverte des manuscrits de la Mer Morte avec des rouleaux complets, 2 rouleaux complets. Et donc de 1000 ans plus anciens que tout ce qu'on avait jusque-là comme manuscrit équivalent. Et vraiment écrit d'un seul jet, dirions-nous, n'est-ce pas ? Et qui remettait absolument tout en question. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a argumenté de cette manière ? Il y a tout d'abord l'argument de l'incrédulité mensongère, mais il y a aussi une sorte de recherche d'interprétation du style qui change entre les premiers chapitres et les derniers chapitres. Alors, vous savez, quand on lit Victor Hugo, on fait la même chose. Hein. Il a écrit sur un grand laps de temps, et il est évident que le style de tout un chacun change au fil du temps. Et le style d'Ésaïe a changé aussi sur plusieurs dizaines d'années, ce qui peut laisser faire comprendre ces différences sans pour autant vouloir attribuer certaines portions à d'autres Ésaïes. Il n'y a pas que ces raisons, mais c'est une des raisons. Donc nous n'avons pas le droit d'interpréter n'importe comment l'Écriture, mais nous devons être soumis à l'Esprit qui nous a donné toute la Bible. Et un bon commentateur a simplement dit ceci: on doit expliquer l'Écriture par l'Écriture, les passages obscurs par les passages clairs. Il faut expliquer les passages qui offrent la possibilité de plusieurs interprétations par ceux qui n'en autorisent qu'une seule. Les phrases symboliques doivent être interprétées à la lumière des affirmations directes et les paraboles par les passages non symboliques. C'est un principe indispensable à toute analyse de l'Écriture qui se veut saine. Nous pourrions nous pencher sur la question de la querelle qui oppose, par exemple, ceux qui parlent de la possibilité pour le disciple de Jésus-Christ de perdre son salut, et ceux qui sont très solidement attachés à un salut qui ne peut pas être remis en cause. Et je dois dire que je m'inscris de manière très claire, tout en respectant ceux qui ne veulent pas de cette conviction, mais je m'inscris dans ce second camp. Et pourquoi est-ce que je m'inscris dans ce second camp ? Au nom d'une saine interprétation de l'ensemble des Écritures. Lorsque nous écrivons dans un cahier tous les textes bibliques qui nous parlent de l'assurance d'un salut éternel qui ne peut pas être remis en question dans la mesure où nous sommes bien sûr authentiquement régénérés, et que dans une seconde colonne, on aligne tous les textes qui pourraient laisser entendre que l'on peut perdre son salut, mes amis, il y a une telle différence que le plateau de la balance sur lequel s'entassent les textes en faveur d'un salut éternel qui ne peut pas être mis en question s'enfonce, alors que l'autre est d'une légèreté, n'est-ce pas ? Et ça, c'est une des grandes règles d'interprétation des Écritures. Nous n'avons pas le droit de mettre en évidence quelques textes allant dans une direction si la majorité des textes sont unis dans une autre direction. Nous devons dire soit que nous comprenons mal, nous devons donc creuser les textes, n'est-ce pas, soit qu'il y a une part de mystère qui n'est pas éclairée. Cela, ça dépend de nous, ça dépend du Seigneur, de sa souveraineté, et cela fait partie parfois de cette frange de mystère que Dieu maintient pour que nous soyons vigilants dans notre vie chrétienne. Je ne peux pas là aussi entrer dans tous les détails, mais il est important que nous disions donc quelques mots sur cette saine approche des Écritures. J'aimerais dans ce cadre souligner encore que la lecture systématique de l'ensemble des Écritures est une aide puissante dans le discernement de la volonté de Dieu dans notre vie. Vous savez que la question à 1000 francs, dans toutes les conventions, dans les camps de jeunesse, dans les entretiens personnels, c'est comment discerner la volonté de Dieu dans ma vie. Il est évident qu'on ne discerne pas la volonté de Dieu avec la tribu des Nyaka et des Ifokon. Hein. Vous connaissez ces 2 tribus. Hein. Il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela, Nyaka faire ceci, etc. Il est évident que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais la connaissance, une bonne connaissance globale des Écritures, souligne les grands principes de la pensée de Dieu et va être une aide fantastique pour la recherche de la volonté de Dieu. La Bible n'est pas un dictionnaire ou un livre de cuisine, n'est-ce pas, nous donnant pour les moindres détails de notre vie des indications très précises, même s'il y a une quantité de précision. Mais nous avons tout au long des Écritures une quantité de grands principes spirituels qui sont d'une utilité fantastique lorsque nous sommes à la recherche de la volonté de Dieu. Et très souvent, nous nous plaçons sur des voies en dehors du plan de Dieu parce que nous ne connaissons pas ces grands principes de la pensée de Dieu. Vous avez peut-être entendu parler de ce cultivateur, il y a parmi nous un cultivateur, ça l'intéressera beaucoup, ce cultivateur qui se voulait très spirituel et qui travaillait dans son champ, quand il voit dans le ciel les nuages prendre une forme, vous savez, ça arrive parfois, on peut lire dans le ciel, faire un peu travailler son imagination, et il voit des nuages qui prennent la forme de trois lettres de l'alphabet. Et il peut discerner, là, dans son champ, A, B, C. Il abandonne tous ses outils, son tracteur et tout le reste, il file à la maison et il dit à recevoir un appel de Dieu. Allez prêcher Christ. Alors il vend sa ferme, le tracteur et tout le reste et il devient évangéliste itinérant. Sa femme était assez sceptique, elle avait les pieds un peu plus que lui sur la terre et puis comme il était très peu invité, parce que très rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait un problème à quelque part, il s'est remis en question. Et quand son épouse a senti qu'il était suffisamment remis en question pour qu'on puisse l'aborder sans essuyer un retour de flamme, elle lui a dit, tu sais mon chéri, je ne voudrais pas te contredire, mais est-ce que tu ne penses pas que ces trois lettres dans le ciel avaient une autre signification? Aller planter les choux. Vous savez qu'on met sur le compte de la volonté de Dieu parfois des choses tellement absurdes. Que de jeunes viennent voir des aînés, je pense dans les camps, et j'ai fait un tas de camps, n'est-ce pas, comme enseignant, en disant, oh, le Seigneur m'a dit que je dois épouser un tel. Ah, mes amis. Et tous les 15 jours, ça change, bien entendu. Alors, on se demande ce que le Seigneur a dit, finalement. Attention donc à ce que j'appelle la loterie dans la recherche de la volonté de Dieu. Et il y a tant d'histoires à ce sujet que je ne vous raconterai pas. Alors, j'aimerais maintenant simplement dire deux mots sur les écueils à éviter dans cette lecture systématique des Écritures. Le principal écueil à éviter, c'est de s'achopper sur les difficultés. Certains s'arrêtent dans la lecture de l'ensemble des Écritures parce que les difficultés les arrêtent et qu'ils ont le réflexe de la méditation personnelle ou de l'étude systématique en profondeur. Ils pensent qu'on ne peut pas aller plus loin si l'on n'a pas compris quelque chose. Alors finalement, ils mettent la Bible de côté, en ce qui concerne en tout cas la lecture cursive, parce qu'ils sont bloqués sur un texte ou un livre plus hermétique que les autres. Nous avons parlé d'arrêt, hein, ils s'arrêtent. Alors la réponse classique que l'on donne, c'est que nous devons faire avec la lecture cursive des Écritures ce que nous faisons quand nous mangeons du poisson. Quand on mange du poisson et que ce n'est pas du filet, c'est-à-dire qu'on a droit aux arêtes, on ne se laisse pas arrêter par les arêtes. On met les arêtes sur le bord de l'assiette et on continue à manger le poisson. Et ça, c'est la lecture cursive des Écritures. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je peux très bien, dans un petit carnet réservé à cet usage, indiquer le texte, la référence. Puis je ferme mon carnet et je continue. Peut-être que cela va rester pendant une année en sommeil. Mais la deuxième année, dans ma lecture cursive, peut-être que ce texte va s'éclairer. parce que petit à petit, je vais réaliser précisément que la Bible s'explique par la Bible. Chaque année, Dieu me donnera un peu plus de lumière, et alors on vit dans cette lecture systématique des Écritures des moments extraordinaires. Je bénis Dieu du jour où, je ne sais pas pourquoi, mais dans cette lecture cursive des Écritures, Dieu m'a éclairé, vraiment comme une révélation à mon cœur. J'avais lu ces textes je ne sais pas combien de fois, mais Dieu l'a révélé à mon cœur, le prophète Osée. Au point que pendant des semaines, je me suis enlisé pratiquement, avec bonheur, dans ce prophète Osée, qui est devenu, mais d'une actualité, qui est devenu un de mes livres favoris pendant un bon bout de temps. Et c'était dans le courant d'une lecture cursive des Écritures que Dieu a ouvert ce livre. Et c'est une chose que l'on constate fréquemment. Il plaît à Dieu, dans le courant de cette lecture, de nous donner un éclairage plus particulier sur tel ou tel livre de la Bible. Ne nous laissons pas arrêter par les difficultés. Pascal disait ceci: il y a assez de lumière dans la Bible pour ceux qui veulent croire, et il y a assez de ténèbres dans la Bible pour ceux qui veulent en trouver. Et l'humoriste américain Mark Twain, qui a beaucoup de choses à nous apprendre, même s'il n'était pas croyant, parlait de la Bible avec un de ses amis. Et cet ami lui dit: tu sais, ce qui me trouble dans la Bible, c'est tout ce que je ne comprends pas. Et Mark Twain de lui répondre: moi, c'est le contraire. Ce qui me trouble dans la Bible, c'est tout ce que je comprends. Eh oui. Eh oui. Et parfois, l'ennemi sait nous détourner, hein, de ce qui devrait véritablement nous troubler, pour que nous nous mettions à tomber dans des arguties, des discussions sur des choses que nous comprendrons peu à peu, ou que nous comprendrons quand nous serons au ciel. C'est Moody qui disait ceci: je suis content qu'il y ait dans la Bible une profondeur qui m'échappe, car cela nous montre que Dieu en est vraiment l'auteur. Et il ajoutait: un homme s'approcha un jour de moi avec un passage très difficile, et il me dit: monsieur Moody, comment expliquez-vous ceci? Je répondis: je ne l'explique pas. Mais comment l'interprétez-vous? Je ne l'interprète pas. Mais alors comment le comprenez-vous? Je ne le comprends pas. Mais que faites-vous alors de ce passage? Je n'en fais rien. Comment, vous n'y croyez pas? Si, j'y crois. Je crois à beaucoup de choses que je ne comprends pas. Dans Jean 3, Jésus a rappelé à Nicodème que s'il était incapable de saisir les choses terrestres, les choses célestes le dépasseraient alors énormément. La nature elle-même est pleine de merveilles que nous ne comprenons absolument pas. Alors, comment pouvons-nous nous attendre à connaître toutes les choses spirituelles? Et l'apôtre Pierre a eu beaucoup d'humilité. Lui qui avait vécu près du Seigneur, qui avait eu une part de révélation d'en haut tout à fait particulière, savait pourtant articuler ces mots. Ouh, dans les lettres de l'apôtre Paul, il y a des choses difficiles à comprendre. C'est beau cette humilité, de reconnaître que tant que nous sommes sur la terre, il y a bien des domaines qui restent difficiles à comprendre. Deux mots sur l'étude en profondeur. C'est donc la troisième forme d'approche des Écritures. J'appelle ça également donc par sous-marin ou bathyscaphe, plongeur. Vous allez donc dans les profondeurs des Écritures. On aborde un sujet doctrinal préoccupant, un livre de la Bible, une biographie. Je crois que ça aussi c'est important. Alors ce que nous avons vu hier après-midi dans cette méthode de mise sur fiche des Écritures peut beaucoup, beaucoup nous aider. Et je crois qu'il ne faut pas biaiser et éviter cette dimension-là. Vous savez que nous sommes dans une époque où, je l'ai dit dans mon introduction, je le redis dans cette conclusion, ou bien nous allons vers un christianisme tellement centré sur l'expérience, sur une relation soi-disant directe avec Dieu, où les Écritures deviennent tout à fait secondaires, ou bien alors, à l'autre extrême, nous entrons dans des complexités incroyables, n'est-ce pas, qui font que la Bible semble réservée à une élite. Alors que Dieu nous donne, dans ce domaine, de considérer que ces deux extrêmes ne sont pas intéressants. Et qu'il nous faut simplement veiller à avoir une vie chrétienne équilibrée qui associe une piété personnelle, une relation intime avec le Seigneur, en même temps qu'une sérieuse étude de la parole de Dieu. Dieu nous a fait don de merveilleuses facultés. Et ce n'est pas pour que nous laissions certaines de ces facultés en sommeil. Nous n'avons pas le droit de mettre en évidence tout le côté affectif, émotionnel, sentimental, au détriment de la dimension intellectuelle, de l'utilisation de nos facultés de raisonner, de penser, de réfléchir, tout ce monde de l'intelligence. De la même manière que nous n'avons pas le droit de mépriser l'aspect émotionnel, affectif, sentimental, pour ne privilégier que l'activité cérébrale. Et certainement que plutôt que de toujours dresser un doigt accusateur vers certaines extrêmes, nous devrions battre notre coulpe. Vous savez, quelqu'un a dit très justement que les sectes étaient les champignons microscopiques qui poussaient sur la pourriture de l'Église. Et je dirais que certaines expressions dans nos milieux évangéliques sont le résultat de nos propres extrémismes. Si nous vivons une orthodoxie morte, si nous nous complaisons dans un christianisme absolument traditionnel et froid, dans lequel les sentiments ne peuvent pas s'exprimer, ne nous étonnons pas si certains éprouvent un jour le besoin de faire exploser la cocotte minute. Hein. Et bien sûr, ils iront à l'autre extrême. Et bien entendu, certains en reviennent, d'autres n'en reviennent pas. Mais veillons à regarder dans nos vies, pour voir s'il y a dans notre vie la recherche de cet équilibre qui met en application, qui utilise, qui use de toutes les facultés que Dieu nous a données. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et vous savez que c'est une des affirmations clés fondamentale dans les Écritures, qui nous dit donc que aimer n'est pas simplement affaire d'émotivité, de sentiment, d'affectivité, mais nous aimons avec notre volonté, nous aimons aussi même avec notre matière grise, nous aimons avec notre être tout entier. J'ai d'ailleurs lu à ce sujet, j'espère que je l'ai gardé ici, oui, ces tout derniers jours, un texte très intéressant, donc sur la prédication, que je vous laisse. Ce texte dit ceci, l'exégèse, bon, un terme un peu compliqué, mais qui est biblique. Hein. Exégèse est un mot grec, francisé, mais que l'on trouve dans les Écritures, et exégèse, ou le terme exégomai, signifie raconter, expliquer en détail, interpréter. Pour les divinités païennes, c'était interpréter les oracles de la divinité dans le monde païen. Alors l'exégèse, qui est donc cette analyse des Écritures, cette manière dont on épluche le texte biblique, comme nous l'avons fait à quelques-uns hier après-midi, et l'application, la mise en pratique, sont toutes deux des exercices indispensables pour l'étude de la Bible. Il convient d'insister sur ce point. Ce ne sont pas des ennemis inconciliables comme on voudrait parfois nous le faire croire, en opposant la démarche académique et celle de la piété. L'exégèse sans application est comme un produit surgelé, rempli de bonnes choses, mais sans rapport avec la réalité et sans pouvoir nutritif immédiat. L'application sans exégèse ressemble à une fusée sur orbite, oubliant la rampe de lancement d'où elle est partie. Je trouve que ces images absolument remarquables. Alors pour l'étude en profondeur, nous en avons parlé hier après-midi, une bonne Bible d'étude, comme la version second révisée, une ou deux versions différentes, un bon dictionnaire biblique et une concordance feront l'affaire, et puis un bon commentaire sur le livre qu'on analyse, un cahier, des crayons de couleur, des fiches, et on se met au travail. Et on essaye, dans l'année, ici et là, de dégager des moments dans notre programme où, d'une manière particulière, on va passer du temps en compagnie de tel personnage de la Bible, de tel livre. Et c'est là, alors, que l'Église locale, dans les ministères d'enseignement, dans les fonctions des anciens, va énormément nous aider. Là, elle peut vraiment nous aider, nous apporter tout ce dont nous avons besoin pour bien travailler. Le rôle de l'Église locale est très important à ce niveau pour nous aider à bien étudier notre Bible personnelle. Alors, nous passons donc à la dernière partie extrêmement pratique qui va me permettre de vous donner encore un peu de matériel. Nous soulignons tout d'abord l'importance de la mémorisation. C'est pas facile pour tout le monde. Et je comprends qu'il arrive un âge ou des situations où la maladie intervenant, les grandes fatigues, il soit difficile pour certains de mémoriser. Et je ne voudrais pas laisser à la puissance des ténèbres une autorité en la matière, celle de créer des fausses culpabilités dans nos vies. Je parle beaucoup de mémorisation, notamment quand j'ai affaire à des jeunes qui ont pris des habitudes de mémorisation. Il faut reconnaître que c'est souvent plus difficile plus tard. Je me souviens avoir parlé de ce thème une fois, et un enseignant est venu, qui était, d'ailleurs il ne m'a pas dit qu'il était enseignant, mais il est venu me voir et il m'a dit, vous savez, vous avez eu tort de dire que pour les personnes plus âgées, etc. Alors je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, écoutez, je voudrais vous demander quelle est votre profession. Il m'a dit, je suis professeur. Je lui ai dit, oui, d'accord. Alors il faut que vous cessiez d'être professeur et que vous vous mettiez un petit peu dans la peau d'autres gens qui n'ont pas les facultés, les possibilités que vous avez, n'est-ce pas? Alors nous devons être attentifs à l'importance de la mémorisation. Et si nous ne pouvons plus mémoriser, nous pouvons en tout cas encourager ceux qui montent à mémoriser. Les jeunes croyants. Je bénis Dieu d'avoir pu faire dans le passé des choses que je ne peux plus faire maintenant. J'ai eu de graves problèmes de santé à plusieurs reprises et c'est pour ça que j'en parle. Parce que Dieu m'a aidé à me déculpabiliser dans certains domaines. Mais il fut un temps où dans ma vie de disciple de Christ, de jeune disciple de Christ, je mémorisais des livres entiers. Et ça a été fantastique. Quand j'étais dans l'aumônerie militaire en Allemagne fédérale, pendant mon service militaire, je passais des jours et des jours à mémoriser toute une série d'épîtres du Nouveau Testament. Et j'allais ensuite me promener le long de la Moselle, à Trèves, où je vivais ce ministère, et je passais des heures le long de la Moselle à réciter des livres du Nouveau Testament entiers les uns de mettre des versets bibliques sur un petit carton puis de le mettre dans sa poche pour pouvoir dans la journée les ressortir de temps en temps pour qu'ils s'imprègnent peu à peu dans notre cœur. Je pense à ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam où quelques soldats américains ont été capturés et envoyés à Hanoï, et après plusieurs semaines passées dans des conditions difficiles, ils décidèrent de se lire la Bible les uns aux autres. Et ils ont donc demandé aux gardiens de leur procurer une Bible, mais le gardien de refuser. Alors ils essayèrent d'écrire la Bible eux-mêmes, chacun de ces soldats devant citer des versets de mémoire. Alors au début c'était très facile parce qu'ils ont commencé par les bonbons, hein, comme on disait ce matin, par les sucreries, ce qu'ils savaient par cœur, que quand on a passé un peu de temps avec la Bible, on est presque obligé de savoir à force de le rabâcher. Mais peu à peu, ils se sont rendus compte combien leur connaissance de la Bible était limitée. En dehors de Jean 3,16, du psaume 23, du Notre Père, des 10 commandements, ils ne se souvenaient que de rares versets. Et l'histoire nous dit qu'ils se sont regardés vraiment déprimés. En une heure, ils n'avaient relevé qu'une trentaine de versets bibliques. Ils essayèrent encore, mais découvrirent seulement qu'ils embrouillaient les versets. Je pense que pour ceux d'entre eux qui ont pu rentrer au pays, ça a été une leçon marquante pour leur avenir en tant que disciples de Jésus. Je l'ai dit en introduction, vous savez, les conclusions rejoignent souvent les introductions. Et en introduction, nous l'avons dit, nous devons vivre sans pessimisme, sans broyer du noir, sans avoir peur de demain. C'est le moment de lever nos têtes, nous dit Jésus, n'est-ce pas? Mais nous devons vivre avec réalisme, en sachant que nous allons au-devant de temps difficiles pour l'Église de Jésus-Christ dans nos pays. Nous ne devons pas avoir peur. Je pense à ce que Corrie ten Boom disait à son papa lorsqu'elle était enfant. Il disait, tu sais papa, jamais moi je pourrais souffrir pour Jésus-Christ, connaître la persécution, etc. Alors son papa la regardait avec beaucoup d'amour et lui disait simplement ceci, Corrie. Quand nous partons tous les deux en voyage, en train, est-ce que j'achète le billet 15 jours à l'avance? Alors Corrie regardait son papa et disait, non papa, tu achètes le billet juste quand on va monter dans le train, ce qu'on ne fait plus ici aujourd'hui. Il vaut mieux faire le contraire. Enfin, c'était comme ça. Et le papa te dirait, bien tu vois, Corrie, de la même manière que nous achetons le billet pour faire le voyage, au moment de monter dans le train, si un jour tu dois monter dans le train de la persécution, de la souffrance pour la foi, le Seigneur Jésus te donnera le billet au moment de monter dans le train. Tu n'en as pas besoin maintenant. Qu'est-ce que tu en ferais? Mais tu recevras le billet. Tu recevras la grâce parfaitement nécessaire et suffisante pour la situation que tu connaîtras et pour les tunnels à traverser. Et vous savez que souvent, quand on regarde avec recul les temps d'épreuve dans nos vies, et quelqu'un parmi vous me le disait, quand on regarde avec recul, on se dit, mais c'est fantastique ce que la grâce de Dieu m'a porté lorsque j'étais dans cette situation difficile. Si je devais vivre cette situation maintenant, dans mon cadre actuel, c'est vrai que je ne tiendrais pas le coup. Mais la grâce de Dieu était parfaitement suffisante pour ce moment-là. Alors la grâce de Dieu est suffisante pour demain. Et nous ne voulons pas nous faire peur les uns aux autres. Mais nous sommes responsables de nous préparer, de nous équiper en vue des temps difficiles. Les écrits de Paul, ai-je noté, contiennent 88 citations au moins de l'Ancien Testament reproduites de mémoire. Et il se pourrait que l'apôtre Paul, comme bien des rabbins de son époque, ait connu l'Ancien Testament par cœur. Par cœur. Vous voyez qu'il y a là un défi qui nous est lancé. Donc, importance dès la conversion de commencer par des textes courts. Vous avez une méthode qui est très, très agréable à utiliser, c'est la méthode des navigateurs. Et je voudrais vous dire simplement ceci, c'est que moi je conseille à chaque église locale d'avoir dans sa librairie d'église ou dans sa bibliothèque d'église le manuel contenant la méthode de mémorisation des écritures des navigateurs qui vous donne donc sur un certain nombre de semaines tout un programme très pratique, très concret de mémorisation avec des petites fiches, l'étui pour les mettre dedans. Et donc vous pouvez apprendre sur un certain nombre de semaines des versets et des passages clés de la parole de Dieu que nous devrions vraiment connaître. Et alors quand quelqu'un se convertit dans l'église de Jésus-Christ, peut-être qu'un des cadeaux à lui faire quand on lui offre sa première Bible ou ses premières notes d'approche de la Bible, c'est de lui offrir un manuel de mémorisation des Écritures. En priant pour lui et en l'encourageant, on investit pour l'avenir, c'est l'avenir de l'Église. Béni soit Dieu pour ceux qui commencent tout de suite par cette imprégnation de la parole de Dieu. Ensuite, nous arrivons donc à la méthode du soulignage et de l'encadrement couleur. Alors, là, nous allons tout de suite distribuer un tableau. Il ne faudra pas vous inquiéter, je vais vous rassurer assez rapidement, parce que le tableau est assez rempli. C'est un recto verso, mais qui, pour des questions pratiques, a été mis sur une seule feuille. si vous voulez, peut-être simplement vous le passer de l'un à l'autre, de chaque côté, et je vais vous l'expliquer ici, en le mettant ici. Bon, vous ne verrez pas forcément très bien, mais je l'ai simplement photocopié sur transparent. Vous l'avez sous les yeux, il y a peut-être ici et là quelques petites différences, parce que, en fait, là, il y a une nouvelle édition, parce que petit à petit, en progressant, je modifie aussi un certain nombre de codes utilisés. Alors, ne vous inquiétez surtout pas en voyant l'abondance. Je l'ai dit, il faut y aller progressivement. Et ceci est le fruit d'un travail qui s'est étalé maintenant sur ces 20 dernières années. Et voyez comment se présente ce tableau dans ma Bible. C'est donc un tableau qu'on peut mettre à l'intérieur de sa Bible. On peut même à la rigueur le copier sur une des pages de garde de la Bible pour éviter de le perdre. Alors ici, c'est simplement un Bristol où vous avez donc ce que vous avez sur une feuille. Vous l'avez ici en recto et verso. Et vous le gardez donc à l'intérieur de votre Bible. Vous avez tout d'abord, vous le remarquez en haut à gauche, 14 couleurs différentes, dont certaines sont très proches l'une de l'autre, sur les grands sujets qui parcourent les Écritures. Vous avez Dieu dans sa nature et ses attributs, la personne de Christ, l'œuvre de salut de Christ, le Saint-Esprit, les grands textes bibliques sur la définition de l'homme dans sa nature, dans ses actions, dans sa conduite, le péché, plus Satan et le monde des ténèbres, le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, c'est-à-dire cet arc-en-ciel du caractère de Christ ramassé dans Galates 5, 22, la foi, l'espérance, l'Église dans son organisation et ses activités, la prière, les généralités sur la prophétie, qu'on appelle d'un nom barbare l'eschatologie, c'est-à-dire tout l'enseignement sur la fin des temps, essentiellement, auquel j'ajoute l'au-delà, et puis tout ce qui est dit dans la Bible, sur la Bible elle-même, c'est-à-dire son inspiration, son autorité, la manière dont elle est venue jusqu'à nous, la manière dont il faut l'enseigner, la lire, etc. Donc, 14 grands sujets qu'il est important de travailler. Alors, quelques conseils pour l'utilisation de ce tableau. Quand j'ai commencé à utiliser les crayons de couleur, ce que peut-être certains d'entre vous ont fait, d'ailleurs beaucoup ont commencé, très peu ont continué, j'avais 8, 9, 10 ans. Et je suivais déjà des cours par correspondance avec certains instituts. Et j'ai encore mon Nouveau Testament, ma Bible de cette époque. Bien entendu, je n'ai pas commencé avec les 14 couleurs. On choisit peut-être pour la première année une, deux, trois, quatre couleurs suivant ses possibilités. Et on va donc, dans sa lecture cursive, dans le cours du texte, souligner simplement les textes qui ont trait à tel ou tel thème retenu de la couleur correspondante. Et on peut très bien avoir un petit étui qui nous permet de traîner ces crayons de couleur avec nous si nous circulons. On peut utiliser ces crayons de couleur même dans notre méditation personnelle. C'est aussi une possibilité. Mais surtout, commencez avec seulement ce qui est dans vos cordes, dans vos possibilités. Si vous voulez commencer uniquement sur un thème, ne commencez que sur un thème. Et puis, si vous devez prendre 5 ans, 6 ans, même 10 ans, pour faire le tour des 14 grands sujets avec des crayons de couleur, eh bien, on prendra 10 ans. Mais je crois qu'il faut que nous apprenions à vivre, je le répète, à l'intérieur de nos possibilités. Alors, les textes courts, vous allez les souligner discrètement, horizontalement. Les textes plus longs, vous éviterez de le faire de manière horizontale, parce que si vous commencez à barioler 1 Corinthiens 13, le thème de l'amour en jaune, n'est-ce pas, autant mettre un pot de peinture, Vous comprenez, il vaut mieux à ce moment-là mettre simplement un trait vertical jaune qui indique que l'ensemble du chapitre va dans la direction de l'amour. Vous allez utiliser les deux sens pour des textes utilisant, par exemple, les deux sujets. Vous pourrez utiliser 3-4 couleurs dans la mesure où vous organisez bien, là il faut faire preuve de bon sens, lorsque on examine un texte. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est le barbouillage. Certains amis sont venus me voir avec leur nouvelle Bible et ils m'ont dit « mais je suis vraiment perdu là » et ils m'ont montré leur travail. Et puis c'était vraiment barbouillé. Alors nous avons dû reprendre ensemble et je leur ai donné quelques indications pratiques pour éviter d'en mettre absolument partout. Il faut être léger dans ce domaine et essayer d'utiliser son intelligence pour qu'on puisse quand même continuer à lire le texte, n'est-ce pas? Ensuite, une simple remarque, c'est qu'il est possible d'utiliser les couleurs différemment pour certaines études. Par exemple, vous pouvez très bien dans une Bible faire une étude du Cantique des Cantiques en utilisant plusieurs crayons de couleurs différents. Vous savez que le Cantique des Cantiques est une pièce de théâtre, avec un certain nombre d'actes et des scènes à l'intérieur de ces actes. Et vous avez le cœur des jeunes filles de Jérusalem, vous avez la Shulamite, vous avez le berger, vous avez Salomon. Vous pouvez très bien colorier les parties prises par chacun de ces personnages ou groupes de personnages d'une couleur différente. Et vous allez voir qu'ensuite, ça va illuminer votre texte, ça va le rendre beaucoup plus vivant, tout comme on lit certains classiques de Racine, Corneille, etc., n'est-ce pas, avec des dialogues. Alors voilà une possibilité. Vous pouvez, par exemple, dans l'Apocalypse, utiliser 3 couleurs pour une approche du livre de l'Apocalypse. Une couleur pour tout ce qui se passe dans le ciel, une couleur pour tout ce qui se passe sur la terre, et une couleur pour tous les cantiques. Vous savez, vous avez 7 grands cantiques dans l'Apocalypse. Et il y a un message sur ces cantiques qui est fantastique. Et c'est en utilisant des couleurs que vont ressortir les grands thèmes. Alors, l'objectif de l'utilisation de la couleur, c'est que cela oblige à suivre le texte et à l'interroger attentivement. Vous êtes obligé de vous dire, bon, mais qu'est-ce que je lis là? Est-ce qu'il est question de Dieu? Est-ce qu'il est question de Jésus-Christ? Est-ce qu'il est question du Saint-Esprit? De quel aspect de la personne de Christ est-il question? Parce que vous devrez choisir votre couleur en fonction du contenu du texte. Vous allez repérer des grands thèmes rapidement. Vous allez discerner les dominantes, les plans d'un livre. Vous verrez qu'avec la couleur, on peut détecter le plan de certains livres beaucoup plus facilement, je pense à l'Épître aux Romains. Et puis ensuite, vous avez les alphabets. Les alphabets. Vous avez d'abord un alphabet. Alors, généralement, c'est indiqué à quelque part, mais je vous le dis, vous pouvez le noter sur votre feuille. En ce qui concerne Dieu, le Père et le Christ, n'est-ce pas, vous avez toute cette partie-là, ces deux colonnes, plus cette partie ici en bas, sous ce trait, qui est en rouge. Tout ce donc qui concerne le Père et le Fils est en rouge. Ce sont donc des lettres alphabétiques qui correspondent généralement à la première lettre du mot, pas toujours. Dans certains cas, il a fallu trouver des solutions parce que les thèmes obligés, n'est-ce pas? Mais tout cela est en rouge, jusqu'ici, y compris, donc vous le remarquez, ici, certains petits symboles. Alors ici, à droite, toute cette colonne, jusqu'aux œuvres, depuis ange, là-haut, c'est en bleu. Ce sont donc toutes sortes de grands thèmes dans les Écritures, visible grâce au vocabulaire qui est dans le texte ou bien au vocabulaire qui est ou aux idées, n'est-ce pas, qui sont à l'intérieur du texte. Qu'est-ce que je pourrais dire encore à ce sujet? Alors là aussi, n'est-ce pas, vous avez le Z pour sagesse parce que le S est utilisé de manière différente. À côté de sainteté, vous avez un plus et un moins parce que vous avez toujours deux pôles dans la sainteté. Vous avez l'aspect de de séparation, de purification, et vous avez l'aspect de consécration, de mise à part pour. L'équilibre de la sainteté doit toujours contenir ces deux éléments. Alors ceci, c'est donc des indications qui doivent figurer dans la marge de votre Bible, et ce sont, si vous voulez, des éléments qui vous permettent d'affiner les couleurs. Ce sont des grands thèmes, mais cela a besoin d'être affiné. Alors, par exemple, le fruit de l'esprit est en jaune, c'est une généralité, n'est-ce pas? Chaque fois que vous voyez des éléments de fruit de l'esprit, vous le mettez en jaune. Mais cela ne vous indique pas si c'est dans le fruit de l'esprit, la bonté, la fidélité, la patience, la bienveillance, ou la maîtrise de soi, ou la joie. Alors, ces lettres vont vous aider, dans la marge, à préciser de quel aspect du fruit de l'esprit il s'agit. Alors ce sera très important parce que dans l'épître aux Philippiens, vous allez parfois, par exemple, avoir 16 mentions de la joie associées à 16 mentions de la souffrance, etc. Ou dans la première épître de Pierre, vous avez aussi des associations toutes particulières. Alors bien entendu, là aussi, il ne s'agit pas de tout faire en même temps. Choisissez 2, 3, 4 lettres de l'alphabet, ou bien peut-être simplement toutes les lettres correspondant au fruit de l'esprit, et dans votre étude, en marge, vous indiquez donc ces différents éléments de lettres pour décomposer les couleurs. Alors vous avez remarqué que vous avez une deuxième partie, ce sont des minuscules, vous avez des minuscules vertes, jusque-là, si je me souviens bien, je vais vérifier simplement, le reste a été mis en rouge à partir de là, mais ici ce sont encore des thèmes qui affinent, d'ailleurs vous avez là une quantité d'éléments du fruit de l'esprit, vous voyez la joie, la douceur, la bonté, et d'autres grands thèmes, la patience, la persévérance, le réveil dans les Écritures, le souvenir, toutes sortes de thèmes très intéressants. Vous avez en noir au milieu des thèmes qui sont négatifs, avec une quantité de symboles, de pictogrammes, et vous avez à droite encore toute une série de thèmes qui sont en bleu. Normalement, vous avez une petite indication sur vos feuilles, tout à fait en haut, la couleur est indiquée, n'est-ce pas? Alors ici encore, ce sont toutes sortes de décompositions de la couleur pour pouvoir faire ressortir toutes sortes de thèmes de la parole de Dieu. Alors allez-y lentement, vous êtes libre. Si vous trouvez d'autres formulations, j'ai expliqué hier après-midi aux amis qui étaient là que un de nos amis stagiaires, qui était un ancien marin au long cours, m'avait dit: Boris, moi tes idéogrammes ne m'intéressent pas, je préfère utiliser mes symboles parce que je suis un ancien marin, alors je vais utiliser le code maritime et tout le symbolisme du code maritime dans ma Bible, et il a composé son petit code à lui, qui était très vivant, mais qui collait avec toutes sortes de textes de la Bible. Vous voyez, on peut adapter tout cela, n'est-ce pas? C'est pas la loi des maîtres de Béperse. Et ayez une entière liberté d'adapter. J'ai bien des amis qui ont adapté, moi ça me réjouit. L'essentiel, c'est que vous soyez dans vos bonnes chaussures pour étudier la parole de Dieu, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez faire le maximum. Est-ce que qui que ce soit a des questions à poser sur ces codes? Pas de questions? En tout cas, le but, c'est de vous aider à vous arrêter lorsque vous lisez la Bible. Parce que trop souvent, nous lisons la Bible en TGV. Et on ne sait plus se laisser arrêter par les mots. Et on passe sur des richesses fantastiques. Là, avec ça, vous êtes accroché, vous êtes obligé de vous arrêter et d'analyser votre verset. Est-ce qu'il est question de la bonté? Est-ce qu'il est question de la justice? De quel aspect est-il question? Vous êtes obligé de questionner le texte, parce qu'ensuite, dans la marge, si vous voyez ma Bible, les marges sont pleines de toutes sortes de dessins, de toutes sortes de lettres alphabétiques, mais qui ont mis en évidence des messages spécifiques à chaque livre des Écritures. Ma conclusion est toute simple, sera pour souligner que la source d'une bonne assimilation des Écritures et dans l'obéissance à ce que Dieu nous révèle. Je ne peux pas terminer ce séminaire sans souligner ce fait. La source d'une bonne assimilation des Écritures et dans l'obéissance à ce que Dieu nous révèle, c'est Jacques 1, versets 22 à 25, ne pas nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements, mais recevoir la parole de Dieu qui a été plantée en nous, la recevoir avec douceur, et veiller à la mettre en pratique, et puis partager avec d'autres ce qu'on a reçu. Plus vous partagerez l'amour pour les Écritures avec d'autres, et je crois que les conversions à Jésus-Christ les plus solides et les mieux fondées sont des conversions qui reposent sur une découverte de la parole de Dieu. Nous l'avons vu dans notre ministère en Bretagne, où c'est dans le cadre d'un petit institut biblique local où les membres de l'Église faisaient des devoirs, avaient des polycopies, etc., et où nous parcourions toutes sortes de sujets bibliques, c'est là que venaient les non-croyants. Et nous avons vu des enseignants et d'autres venir à ces rencontres, se mettre à découvrir la Bible, se mettre à la lire, et puis un jour venir, dans le cadre de l'Église locale, convertir Jésus-Christ. Simplement au contact de la parole de Dieu. Nous avons une parole qui est puissante. C'est une dynamite fantastique. C'est une parole qui régénère. Et elle vaut beaucoup plus que tout ce que nous y ajoutons. Et si nous pouvons communiquer cet amour des Écritures aux non-croyants, mes amis, nous sommes déjà loin en avant vers le moment où ils pourront faire le choix pour rencontrer le Christ. Et s'ils ont vraiment découvert la parole de Dieu et qu'ils se mettent à l'aimer, Dieu peut vraiment ensuite les bénir dans leur témoignage à leur tour. Je pense à un étudiant qui alla voir un de ses professeurs pour formuler la plainte suivante. Je passe beaucoup de temps à étudier, il me semble que je fais de mon mieux, mais je ne parviens pas à retenir ce que je lis ou ce que j'essaie de mémoriser. Et il demande ensuite à ce pédagogue sage et expérimenté, est-ce que vous pensez que cela m'aiderait si j'engageais un professeur privé? Et le professeur simplement de lui répondre, mais tu sais, ce n'est pas du tout ce que je te recommanderais. Ce n'est pas d'un maître dont tu as besoin, mais d'un élève. Tu as besoin d'apprendre à partager ce que tu as reçu. Et si nous voulons que ce séminaire vive, il faut que nous le partagions. Bien sûr, en commençant par expérimenter, selon ce que le Seigneur va nous indiquer dans notre vie de prière. Et ensuite, communiquer plus loin cet amour pour les Écritures, notamment à la génération. Si vous avez 10 jeunes dans cette église et que ces 10 jeunes peuvent avoir vraiment une vision de l'importance des Écritures pour leur propre vie, mes amis, c'est l'avenir de l'église de Jésus-Christ qui est assuré. C'est fondamental. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est essentiel. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir ensemble, une fois de plus, de nous avoir confié, et nous croyons que c'est véritablement un acte de foi et d'amour de ta part, de confier aux êtres humains que nous sommes le message de ta parole. Seigneur, toi qui connais le cœur des humains si parfaitement, tu sais ce dont nous sommes capables. Et pourtant, Seigneur, tu as accepté de prendre ce risque de nous remettre ta parole. Et tu acceptes avec souffrance de voir comment, parfois, nous traitons cet héritage. Mais merci, Seigneur, pour ta patience. Merci pour tes correctifs continuels, pour la manière dont tu nous redresses, dont tu corriges. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour envers nous, qui ne se lasse pas de remettre notre vie sur le métier de nous ouvrir les yeux sur ta parole. Mais aide-nous, Seigneur, à vraiment grandir dans ta parole et à être fécond comme tu le souhaites, comme tu le désires, comme c'est ta volonté, à être fécond parce que ta parole occupera vraiment la place qu'elle doit occuper dans notre mentalité et dans nos actes, dans nos attitudes quotidiennes. Mets toi-même ton sceau sur tout ce que nous avons partagé ensemble. Bénis-nous dans nos résolutions personnelles, chacun dans les limites que tu nous indiques par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu es aussi le Dieu de la persévérance. Nous te bénissons de ce que ce soit là un de tes titres. Nous nous appuyons cet après-midi sur toi comme sur le Dieu de la persévérance. Béni sois-tu, Seigneur, de savoir que tu nous tiens bien dans ta main et que tu veux nous aider à aller jusqu'au bout dans notre marche avec toi, dans notre approche de ta parole, dans notre témoignage personnel et ecclésial. Bénis cette communauté locale et toute autre communauté représentée ici. Bénis son témoignage. Bénis la parole qui est partagée ici. Bénis le témoignage à salut pour la population de cette région. Et que vraiment cette communauté puisse être reconnue comme le peuple par excellence de ta parole. Dans le nom du Seigneur Jésus.